Mais qu'est-ce que c'est bon,
mais
ça.
Qu'est-ce que c'est bon.
Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h30.
Ça va, c'est la saison, ça.
Oui, ça, c'est bien.
J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bonjour à tous, allez-y les amis, installez-vous, faites comme chez vous, vous êtes chez vous. Hein. La cuisine, vous le savez, c'est bien plus que des recettes et c'est ce que nous allons entendre jusqu'à midi et demi. Alors on va faire le tour du Mont d'Or, vous savez, ce fromage de saison, on va vous aider à bien le choisir. Et puis nous allons aussi passer à la casserole, nos traditions en cuisine, entre les astuces et les tours de main. Les traditions ont-elles toujours raison? On se pose la question avec notre dossier de la semaine. Voici mes bons vivants du jour. Chez elle, la tradition commence par une bouteille bien choisie pour accompagner les plats familiaux. C'est Ophélie Neyman, Miss Glouglou pour les intimes. Vous la lisez dans le journal Le Monde, vous l'entendez sur Europe 1. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
Chez lui, c'est une tradition familiale. On finit toujours son assiette. Il consacre aussi les accords mets et vins dans la revue du vin de France. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent. Bonjour Ophélie, bonjour tout le monde.
Bonjour Olivier.
Et deux spécialistes du vin aujourd'hui, attention, hein, on va trinquer.
Ouais, on va jouer du tire-bouchon.
Oui, en plus. Et un vin vraiment étonnant qu'on vous fera découvrir avec Ophélie tout à l'heure. Et après 11h30, justement, nous partagerons un plat du jour iodé avec notre invité, drôle et bon vivant, l'auteur-réalisateur Riyad Satouf sera des nôtres. Eh bien voilà, entrons doucement mais sûrement dans la danse, les amis. Vous qui êtes des habitués, des fidèles de l'émission, vous connaissez notre petit rituel. Posez-vous, tiens, la question à la maison ou en voiture. Quel est votre goût de la semaine? Une adresse, un restaurant, une recette dégustée chez des amis? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux hashtag Europe 1 et au 39-21 également 50 centimes par minute. Je vous pose la question, tiens Ophélie.
Des escargots, des escargots. Voilà, j'ai mangé des escargots et j'adore ça. J'ai longtemps été petit gris et maintenant je reviens vers les classiques escargots de Bourgogne.
Le gros.
Le gros. Et je voudrais vraiment dire quelque chose. Tournez-moi cette coquille. Tournez la coquille, faites un tour, faites deux tours pour vraiment faire sortir le beurre jusqu'au bout. Moi, quand je vois des gens qui prennent juste escargots et qui posent la coquille, je leur arrache la coquille, je tourne.
Vous avez raison.
Il faut tourner dans le bon sens, mais c'est très drôle de voir
slurp.
Le beurre sortir comme ça. Oui.
Puis il faut faire slurp avec du pain aussi. Mmh. Ah bah oui, c'est vrai. Oh, vous m'avez donné envie de manger des escargots,
moi aussi.
Oh là là, ça me donne faim, ça. J'ai envie, ça. Olivier.
Alors moi, c'est un accord assez surprenant que j'ai fait cette semaine sous l'égide de mon ami Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde, et du chef Bruno Doucet de la Régalade. Et ils ont associé un vieux rosé de Terre Brune, très belle propriété de Bandol, millésime 2009. Alors on se dit un rosé, franchement, il était au demeurant remarquable.
Oui, comme on quoi, se dit que ça ne vieillit pas.
Ouais. Quand un rosé est bien né dans un grand terroir, il peut aussi vieillir. Associé avec un risotto au safran. Et alors, l'idée du safran et des notes développées très épicées de ce vieux rosé, c'était magique. Et en plus, ça désaisonnalise le rosé qu'on ne réserve pas uniquement à deux mois en été quand il fait très chaud. On peut en boire aussi en hiver. Il faut juste le mettre en musique à table. Et alors, si vous en avez un peu, voilà, des vieux rosés que vous avez gardés, essayez le safran avec. C'est magique.
Je retiens votre phrase. Quand un rosé est bien né dans un grand terroir,
voilà.
Eh ben voilà, on prend ça. Mon goût de la semaine, eh bien, c'est une recette que j'ai faite dans mon émission pour TF1. Une recette simple, mais que je vous encourage, tiens, à refaire ce week-end. C'est une tourte avec des morilles séchées, des champignons de Paris et des pommes de terre. Je me suis inspiré, vous savez, du pâté bourbonnais qui est cette sorte de tourte de pommes de terre qu'on mange dans l'Allier et dans le Cher. Eh bien, j'ai fait revenir comme ça simplement des morilles séchées que j'ai réhydratées dans un petit peu de beurre, des champignons de Paris.
Est-ce que vous les réhydratez à l'eau ou au lait?
À l'eau tiède, je les ai réhydratés.
On peut les réhydrater au lait aussi, c'est pas mal.
Alors, il faut bien changer l'eau plusieurs fois quand on les réhydrate à l'eau, parce qu'il y a toujours des petites poussières. Vous savez que la morille, même quand elle est séchée, il faut la cuire longtemps. Donc, je les ai cuites minimum 15-20 minutes au moins avec les champignons de Paris. J'ai rajouté une belle crème, un petit peu de vin jaune et des pommes de terre que j'avais juste taillées finement, assaisonnées, que j'ai rajoutées. Tout ça emmailloté dans une belle pâte feuilletée au four avec une belle dorure et bien épaisse. Ben voilà, ça m'a redonné le goût de la quiche.
Après les escargots de Bourgogne, je prendrais volontiers une part
tout
de
ça,
votre tour.
Tout ça est très léger. Allez, c'est l'heure d'aller au marché, les amis. Les températures sont basses. Hein. Alors, Mélina Fachin, notre correspondante dans le Grand Est, vous a retrouvé sur le marché de la place de Bordeaux à Strasbourg. Quelle recette, tiens, chers auditeurs, pour se réchauffer? Voici vos réponses.
J'ai l'intention de refaire du petit salé aux lentilles.
Des soupes au potimarron, légumes mixtes. Hein. J'ai des betteraves, fenouil, du cabillaud et du butternut.
Est-ce qu'il y a des petites recettes de prédilection en cette période de l'année?
Oui, des plats chauds, genre béco. Un mélange de plusieurs viandes accompagné de légumes et du vin blanc surtout qui cuit tout ça longtemps, longtemps. C'est le plat d'hiver en Alsace.
Des topinambours, des épinards frais, du céleri, des carottes,
de la mâche, des endives et puis des fruits secs pour les petits gâteaux de Noël.
Et les butternuts et les potimarrons, on en fait en soupe et aussi en gratin. Et c'est super bon. On mélange un petit peu quelques pommes de terre pour casser un peu le goût sucré du butternut et puis un peu de fromage, un peu de gras, ça fait du bien.
Et oui, le gras c'est la vie comme on le dit si souvent et c'est vrai que la courge butternut est très tendance. Hein. On en fait des soupes, on en fait des gratins, elle se cuisine très bien.
La courge butternut mais aussi la courge spaghetti qui est une de mes courges préférées. C'est absolument bluffant. Vous la cuisez au four et puis après on racle avec une fourchette et la chair se détache comme des filaments de spaghetti.
Et moi je fais une sauce 4 fromages pour la déguster comme des vrais spaghetti
ou un carbonara, par exemple, ou ce qu'on veut. C'est magnifique.
Ça, pour faire manger des légumes aux enfants, c'est hachement bien.
Ouais, non, moi quand j'ai froid, enfin là j'avais froid, j'avais fait une salade de poulet, alors ça réchauffe pas. Mais du coup j'ai pris une sorte de vin jaune, enfin c'était un Moria Monteles qui vient d'Espagne, entre le Rerez et le vin jaune. Et en fait ça je trouve que ça réchauffe n'importe quoi avec un plat.
Avec une salade froide, un vin d'Espagne, ça c'est bien aussi, c'est une technique avec modération, mais avec plaisir bien sûr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Une pâte onctueuse et coulante, une croûte plissée comme les monts du Jura, cerclée dans une sangle en épicéa. Eh oui, vous l'avez reconnu, le Mont d'Or se déguste à la petite cuillère, à même la boîte. Hein. Alors comment reconnaître un bon Mont d'Or? Eh bien ce matin, avec Ophélie et avec Olivier, on va vous aider à bien le choisir.
On va en manger surtout.
On va le déguster, vous avez raison. Alors avant de choisir, tiens, le Mont d'Or, un mot sur la différence entre le Vacherin et le Mont d'Or. Hein. Il y a le Vacherin Mont d'Or, vous savez, qui est suisse. Lui, sa croûte, elle est orangée. Et le lait
suisse.
Et les Suisses, voilà, elle est orangée. Et le lait, il est thermisé, c'est-à-dire qu'il est légèrement chauffé. Et en France, on l'appelle le Mont d'Or français. C'est du lait cru. La croûte, elle est fleurie un petit peu comme le camembert. Et le point commun des deux, c'est qu'ils sont dans une boîte en épicéa.
Oui, alors souvent, le Vacherin, en plus, il a un diamètre beaucoup plus grand. On prend une tranche de Vacherin, hein, on n'achète pas la petite boîte.
Alors, le Mont d'Or, lui, le français, est fabriqué dans 10 fromageries et la qualité n'est pas la même partout, Olivier.
Mais non, parce qu'il y a les fruitières. Alors, c'est comme pour le comté. D'ailleurs, il faut savoir que le Mont d'Or, en réalité, est une sorte de sous-produit du comté. Parce que à l'époque, quand on n'avait plus assez de lait pour faire des comtés qui demandent énormément de volume de lait pour faire un comté, eh bien on faisait des monts d'or durant la période hivernale. Et donc les fruitières qui faisaient du comté se sont aussi mises à faire du mont d'or. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fruitière? Eh bien c'est un établissement dans lequel on met ensemble le fruit du travail de plein d'éleveurs. C'est pour ça que ça s'appelle une fruitière d'ailleurs.
Comme une coopérative.
C'est comme une coopérative. C'est une coopérative et ça s'appelle une fruitière parce qu'on met en commun le fruit de notre travail. Il faut savoir qu'il reste quand même une fromagerie qui n'est pas une fruitière, qui est donc une fromagerie dans laquelle on ne fait que le Mont d'Or avec le lait de ses propres vaches. C'est donc un Mont d'Or fermier. Mais ça, c'est très rare.
On va en parler, oui. Et c'est pas facile de les distinguer, hein, les fruitières, Ophélie.
Ben non, parce que les boîtes se ressemblent. Hein. Il faut vraiment regarder les noms. Alors, il y a des fruitières qui sont plus artisanales que d'autres aussi. Hein. Alors, par exemple, je vais vous en citer deux. Il y a la fromagerie Michelin. Ça, vous pouvez être sûr que c'est très artisanal. Et la fromagerie du Mont d'Or Sens et Richard, qui est à Métabief.
Alors, il existe depuis une quinzaine d'années un unique producteur fermier. C'est la ferme Mamet qui est au Fin, dans le Doubs. C'est le fils Henri Mamet qui a eu l'idée de lancer le Mont d'Or fermier. Et Marion Sauveur l'a rencontré en pleine fabrication.
On transforme que le lait de notre ferme, juste après la traite. Là, voilà, le lait est tout frais. Il n'a pas été transporté par un camion. Il n'a pas été pompé plusieurs fois. Donc voilà, on a vraiment une matière première très noble. L'autre différence, c'est qu'en fait, voilà, on travaille de façon très artisanale. Ce qui fait qu'au final, on a un produit très différent, qui évolue encore un petit peu plus que nos collègues, puisque à l'automne, le fait de rentrer les bêtes puis de passer un fourrage sec, du jour au lendemain, on a une différence de lait qui est très notable. Et puis, ça nous oblige à adapter les fabrications. Et du coup, on a des variations de qualité de fromage derrière. Alors, ils ne sont pas moins bons, ils ne sont pas meilleurs, mais ils sont différents. Et c'est ce qui fait tout le charme d'une production fermière.
Ah, j'adore cette ambiance, on entend un petit peu, ça résonne parce que nous sommes dans l'endroit où on produit et où on fabrique
nous
le Mont d'Or.
Nous manquait juste le bruit des vaches.
C'est vrai, alors seulement 10 tonnes par saison, hein, alors que l'ensemble de la filière française en produit 6 000 tonnes, c'est ça. Hein. On ne peut pas tous manger du Mont d'Or de la ferme Mamé.
Hélas, non.
Mais on va en déguster un autre dans un instant. Alors je voudrais qu'on parle de la boîte aussi, hein, la boîte qui est en épicéa, c'est la marque de fabrique du Mont d'Or. C'est important parce que ça parfume le fromage, et là aussi, Ophélie, on va le dire à nos auditeurs, il y a des différences de qualité.
Et oui, alors c'est au niveau de l'affinage que ça va se faire, mais c'est la sangle qui va entourer le fromage qui donne du goût. Alors la boîte dans laquelle il est vendu est en épicéa, mais je reviens sur cette sangle. Et certains Monts d'Or sont sanglés avec de l'épicéa du massif du Jura.
Ouais.
Et ça, c'est loin d'être le choix de tous les fromagers. C'est là qu'on voit que c'est top.
En Suisse, ce sont des épicéas locaux. Hein, c'est dans le cahier des charges pour le Vacherin.
D'ailleurs, j'ai une devinette.
Ouais.
On y va. Comment s'appellent les personnes qui fabriquent des sangles?
Oh bah,
les sangliers,
c'est ça.
Oh, mais non, mais Olivier, c'est ça.
Et oui, et quand ils transmettent la fabrication à leurs enfants, c'est les marcassins. Alors en France, c'est vrai qu'on aime déguster le Mont d'Or chaud après un passage au four, alors que dans le Haut-Doubs, eh bien, on le mange comme le fait Olivier depuis 5 minutes à la petite cuillère.
Moi, je l'ai fait au petit déjeuner, donc j'ai plus besoin de le
faire.
C'est
vrai que c'est délicieux.
Ouais, ouais. Moi, j'en prends tous les petits déjeuners, je me fais du Mont d'Or à la cuillère, c'est une tradition. Les gens qui me connaissent bien savent.
Voilà. D'où ça vient cette mode de le déguster chaud, Olivier ?
Ben, c'est une mode qui est relativement récente. Hein, aujourd'hui, là, on cherche des alternatives à la fondue, par exemple, et c'est vrai que c'en est une bonne. Donc l'idée d'aller mettre cette boîte tout simplement dans le four ou alors dans le feu avec une feuille de papier aluminium, c'est une mode qui a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ça ne se faisait pas comme ça à l'origine. On mangeait, comme le fait Ophélie, le Mont d'Or froid.
Oui, comme la tartiflette qui était une mode lancée par le syndicat des producteurs de reblochon
dans les années 80.
C'est pour faire connaître le fromage et le faire déguster au plus grand nombre. On a deux Monts d'Or devant nous. On a celui de la famille Sancerre-Richard et puis celui de la famille Mamet qu'on vient d'entendre. C'est vrai qu'à l'œil, ils n'ont pas le même aspect
non, pas
déjà.
Pas tout à fait. Mais je fais une petite parenthèse. Quand on fait une boîte chaude, comme on dit, moi je rajoute toujours un tout petit peu de vin jaune dedans, ça le parfume de manière assez diabolique. Et on peut mettre une petite gousse d'ail aussi.
Ah, c'est pas mal ça, oui.
C'est si ça a pas cette parfum. Mais moi j'ai l'impression que la boîte chaude c'est venu quand le Mont d'Or était pas assez coulant. Parce que là ce qu'on goûte c'est super coulant. Franchement, le fermier de chez Mamet là, il est hyper coulant, il est presque liquide et c'est comme ça que c'est le meilleur.
Et vous avez vu la couleur de la pâte, elle est beaucoup plus
plus jaune,
plus écrue. Elle vire vers le jaune effectivement.
Et c'est moins collant. Voilà. En fait, il y a des Monts d'Or qui sont très collants au palais et d'autres qui glissent vraiment.
Et il est fluide, celui-là.
Et puis surtout, c'est la longueur en bouche qui est très intéressante. Et un fromage comme un vin, il doit avoir de la longueur en bouche, il doit avoir de la complexité. Là, c'est vrai que c'est quand même un grand moment. Et puis cette texture, on a presque l'impression qu'on l'a chauffé alors qu'on ne l'a pas chauffé du tout. Ils font...
Mais alors pour qu'il fonde, il faut qu'il soit servi à température. Hein. Attention, si vous le sortez directement du frigo, il sera un petit peu figé, crispé. Hein. C'est
vous
normal.
Vous qui nous écoutez, comment vous le préférez, le Mont d'Or ? Réagissez là aussi sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 sur Twitter, sur Instagram, là où vous voulez. Tiens, dernier détail et pas des moindres, le Mont d'Or peut avoir été affiné une deuxième fois parce qu'il y a des fromagers, moi j'en connais plein, qui achètent le Mont d'Or comme ça dans le Doubs et qui continuent de l'affiner dans leur cave quand ils sont affineurs.
Chez Barthélémy à Paris ou chez Mons à Lyon.
Nicole Barthélémy qui nous écoute.
Exactement, poursuivent cet affinage qui va encore le complexifier. Mais honnêtement, si vous achetez un Mont d'Or en grande surface, par exemple, il n'a pas été affiné, vous pouvez le laisser un petit peu dans votre frigo, il va poursuivre sa maturation.
Au supermarché, va trouver du Mont d'Or aussi, hein, Ophélie. Hein.
Oui, absolument. Mais moi, je le fais souvent vieillir au moins un mois dans mon frigo quand c'est comme ça. Quand je l'achète au supermarché, sinon j'ai un fromager qui m'en fait des super.
Oui, parce qu'il est jeune, quoi. Donc c'est
exactement,
bien de le laisser affiner à la maison.
Ouais.
Au cellier, par exemple, pas trop de choc de température non plus.
Moi, je le mets au-dessus du frigo, très simplement.
On peut utiliser la boîte aussi pour pas gâcher. Oui, c'est intéressant.
Alors il y en a qui font des cakes dedans. J'ai jamais essayé, mais il paraît que ça marche extrêmement bien. Mais moi, je ne la jette jamais, la boîte, je la nettoie bien, puis elle me sert à allumer le feu.
Ah bah moi, la maîtresse de mon fils l'a demandé pour les décorations de Noël.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, tu piqueras d'ail ton rôti du dimanche, tu feras mariner la viande 12 heures avant un bourguignon, tu cuiras 100 grammes de pâte dans un litre d'eau. Voilà des règles de cuisine qu'on se transmet de génération en génération. Ces commandements culinaires ont-ils raison ? Eh bien, l'auteur culinaire, justement, Arthur Lequen, jette un pavé dans la mare aux conventions avec son livre paru aux éditions Marabout. Le titre est sympa, écoutez. En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire. Il est là, alors on va le cuisiner, vous pensez bien. Bonjour Arthur Lequen. week-end.
Bonjour.
Bonjour.
Pendant qu'Ophélie attaque sa quatrième part de Mondeur, il est bon.
J'en ai fait tomber par terre, je suis désolée.
Je crois que celui de la famille Mamet vous a tapé dans l'œil.
Ouais, j'adore.
Et dans le palais. Mm-hmm. Alors merci de venir avec ce livre, Arthur Lequen, qui vient de sortir, En cuisine, toutes les vérités sans bonne à dire. Alors le livre commence comme un coup de casserole, hein. Vous donnez le ton, vous dites « La cuisine n'est pas une affaire de transmission, la bonne vieille recette traditionnelle n'est pas la meilleure à suivre ». Alors là, heureusement qu'Yves Candebord n'est pas là.
Ben, c'est-à-dire que ce qu'on appelle traditionnel, en fait, c'est très récent. C'est-à-dire que la blanquette de veau, la joulerie n'a que 50 ans. C'est-à-dire que la crème fraîche a été ajoutée il y a 100 ans par Madame de Saint-Ange. Donc c'est très récent.
Oui, la blanquette de veau qui était codifiée aussi quand même par Escoffier. Vous parlez beaucoup d'Escoffier qui a codifié la cuisine française et vous ne lui voulez pas que du bien, vous, Escoffier.
Ah non, alors si, je lui veux beaucoup de bien, mais pas de la façon dont on pense habituellement. C'est-à-dire qu'il a codifié la cuisine française il y a à peu près 120 ans, c'est-à-dire à peu près au même moment où Thomas Edison inventait l'ampoule électrique avec un filament en coton carbonisé, pour vous donner une idée. Donc il y a très très longtemps. Depuis, on a fait beaucoup de progrès. Les aliments sont de bien meilleure qualité, les ustensiles sont bien meilleurs. Enfin, on a fait des progrès incroyables. La science est arrivée dessus, donc on sait beaucoup, beaucoup plus de choses qu'à l'époque.
Alors, il y a des gestes qu'on a appris à faire en cuisine. Vous dites parfois ils ont un grand intérêt et parfois ils ne servent à rien. Vous appuyez sur quoi, en fait, pour contrer ces grandes règles culinaires qu'on se transmet ?
Alors, d'abord, la science est arrivée. Il y a des études scientifiques qui ont été faites. Et puis, moi, je remets en cause des choses, pas pour les détruire, mais pour savoir si ça marche, si c'est une raison d'être.
En fait, la cuisine, pendant très longtemps, c'était un peu comme une science occulte. C'est-à-dire qu'on faisait les choses parce qu'on pensait qu'on avait des pseudo-certitudes, on avait l'impression qu'en reproduisant, ça marchait toujours. Mais une fois qu'on a mis face à ça les réalités scientifiques mesurables et incontestables, malheureusement, on a fait tomber beaucoup, beaucoup de mythes.
Ah oui, il y a beaucoup d'habitudes qui sont là, qui n'ont absolument aucune raison d'être, qui sont contre-productives.
Eh bien, on va jouer avec ces mythes culinaires. Tiens, je parlais dans l'énoncé du fameux rôti du dimanche ou du gigot qu'on aime piquer d'ail. Ça, c'est une hérésie. Hein.
C'est simple, parce que quand vous, la viande, quand vous la voulez rosée, le gigot est à 55 degrés. À 55 degrés, votre ail ne cuit pas. Donc vous rentrez de l'ail que vous allez avoir cru au moment du service.
Oui, et ça fait couler du jus en plus
non,
du gigot.
Ça c'est une croyance qui est totalement fausse, parce qu'en fait vous percez peu de fibres, donc vous perdez peu de jus.
Cette pratique, elle date un petit peu du Moyen-Âge aussi, où les viandes étaient faisandées, où on n'avait pas de chambre froide comme aujourd'hui, et on sauvait un petit peu le parfum faisandé en mettant de l'ail, en piquant les pièces, les grosses pièces d'ail.
Oui, c'est-à-dire que c'est comme les marinades, ça servait à protéger les viandes et à modifier leur goût, qui étaient souvent des viandes avariées.
Compter que l'ail ne se diffuse pas à l'intérieur du gigot.
Non, mais il n'y a rien qui se diffuse dans les viandes. Enfin, truc est simple.
Si on aime, c'est vrai que l'ail va très bien avec le gigot d'agneau, si vous voulez en faire un ce week-end, par exemple, de l'ail en chemise, juste à côté, dans le plat du gigot, et alors là, vous aurez un ail confit que vous allez pouvoir déguster. Alors, on va jouer, tiens, avec ces mythes culinaires pour démêler le vrai du faux. Un petit quiz, jouer de l'autre côté du poste, et puis Ophélie et Olivier vont prendre part au débat. Première affirmation, tiens, il faut toujours saler la viande avant de la faire cuire. Vous dites quoi, Olivier ?
Alors, le problème, c'est que je connais le livre par cœur, parce que j'ai lu ses anciens ouvrages, et donc je vous dirais qu'en fait, une côte de bœuf, par exemple, l'idéal, c'est de la saler la veille. Alors, si c'est pour la saler juste avant de la faire cuire, ça a très peu d'intérêt. Mais si le sel a le temps de pénétrer, là, ça peut jouer.
Et vous, Ophélie, vous diriez
quoi ? Moi, je sale jamais avant.
Vous salez ? Bon, on sale, ça sert à rien de saler avant.
Ah si, si vous salez 24 heures avant, c'est extraordinaire.
Oui, 24 heures avant, ouais. Juste avant.
Juste avant, ça sert strictement à rien. Entre juste avant et après, il n'y a strictement aucune différence. On a fait des mesures avec un microscope à balayage électronique. Il n'y a pas de sel à l'intérieur.
Il faut toujours sortir la viande à température ambiante avant de la saisir.
Bah là aussi, ça dépend de la taille de votre côte de bœuf. Si elle fait 10 cm d'épaisseur, si vous la sortez une demi-heure avant, ça ne sert à rien parce que le temps que la chaleur au cœur remonte, il faut des heures. Donc, il faut la sortir le matin pour le soir.
Ophélie ?
Moi, je mets un thermomètre de cuisson avant de la mettre dans le four, donc je vois pas le problème.
Alors, sur le groupe Facebook des Bons Vivants, on vous a posé la question. Il faut toujours sortir la viande à température ambiante avant de la saisir. Vous êtes 95% à dire que c'est vrai et 5% à dire que c'est faux. Qu'est-ce que vous dites, vous, Arthur Lequen ?
Ça dépend de l'épaisseur. C'est-à-dire qu'un steak, vous avez intérêt à le sortir à peu près 2 heures avant parce que vous allez être à 20 degrés et quand vous voulez une viande saignante, vous êtes à 45, donc vous n'avez que 25 degrés à atteindre, donc peu de surcuisson de la surface. Par contre, pour un roast beef, moi je fais l'inverse, c'est-à-dire que je le mets même pendant 1 heure au congélateur avant de le cuire, ce qui fait que c'est un truc, c'est dément. Et en fait, vous avez la surface de la viande qui est à une température très basse Et quand vous allez la faire dorer, la chaleur va peu pénétrer à l'intérieur. Donc vous allez avoir une épaisseur de viande trop cuite, grise et sèche, limitée au maximum.
Je connais des formateurs de cuisine qui nous écoutent, qui sont en train de se dire, mais on remet tout en cause. Les pâtes, tiens, il faut cuire les pâtes dans beaucoup d'eau. On a toujours dit 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes, voilà, pour qu'il y ait un beau bouillonnement. Qu'est-ce que vous dites?
Ça dépend des pâtes. Si c'est des pâtes fraîches, il faut beaucoup d'eau. Et si c'est des pâtes sèches, c'est pas nécessaire.
Alors, les pâtes, c'est marrant parce que le temps de cuisson, par exemple, on va dire 10 minutes. Sur ces 10 minutes, il y a 8 minutes qui ne servent qu'à réhydrater la pâte. Il n'y a pas de cuisson du tout. Le vrai temps de cuisson de ces pâtes-là, c'est 2 minutes. Beaucoup d'eau, c'est une hérésie, ça ne sert à rien. Puisque
Mais vous êtes sûr de ça? Parce que c'est les Italiens les premiers à le dire qu'il faut une grosse marmite d'eau bouillante salée pour cuire les pâtes.
Alors, pas tous, parce que mon précédent bouquin qui était traduit en italien, l'éditeur m'a dit qu'ils étaient très contents que j'explique qu'il fallait peu d'eau pour cuire les pâtes, parce que c'était un vrai dilemme en Italie. En fait, il faut peu d'eau parce que la surface de la pâte, l'amidon qui est à la surface, gélatinise assez rapidement. Il faut 1 à 2 minutes et après ces 2 minutes, il ne colle plus. Donc, on n'a pas besoin d'une grande quantité d'eau puisque de toute façon, on remue au départ. Ensuite, si vous mettez peu d'eau, votre eau va contenir plus d'amidon. Et comme vous utilisez un petit peu cette eau de cuisson dans la sauce pour qu'elle adhère plus aux pâtes, vous allez en utiliser moins et donc vous allez moins diluer votre sauce. Donc, vous allez avoir plus une sauce plus collante à la pâte avec moins d'eau.
Je vous imagine de l'autre côté du poste, comme on dit, à la maison ou en voiture. C'est vrai qu'on a tous des gestes comme ça qu'on fait. Ça vaut le coup d'essayer, justement. Et c'est ça qui est intéressant
avec votre livre. C'est passionnant parce qu'en plus, c'est imparable scientifiquement. C'est-à-dire qu'on a beau dire pendant très longtemps, on a cru que la Terre était plate. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a démontré qu'elle ne l'était pas. Ça a gêné beaucoup de monde, mais c'est la réalité.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous revoilà à table avec Arthur Lequen, auteur et décrypteur de la cuisine. Il vient de sortir en cuisine « Toutes les vérités sont bonnes à dire », 60 idées reçues pulvérisées pour mieux cuisiner. C'est aux éditions Marabout. C'est un livre malin et intelligent comme on les aime. On va continuer de passer nos traditions culinaires à la casserole. Alors là, avec deux monuments de la cuisine du week-end, c'est le poulet rôti et le bœuf bourguignon. Alors, on va commencer par le bourguignon. Parmi tous les gestes que nous avons appris, moi j'ai passé un CAP de cuisinier il y a 15 ans, on me l'a encore appris, vous dites qu'il y en a qui ne servent à rien, et vous dites même pire, des gestes transmis maltraitent la recette. Alors, on va parler de la marinade. Par exemple, vous avez deux experts en vin à côté de vous, Arthur Lequen. Alors, la marinade, on l'utilise, elle sert à quelque chose ou pas dans le bourguignon?
Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut mettre un vin de qualité dans la marinade, parce que ça va avoir un impact direct sur la qualité et le goût de la sauce. Après, on sait très bien, et Arthur va le dire, que en fait, la marinade ne pénètre jamais dans la viande.
Marinade ou pas marinade quand vous faites votre bourguignon,
ah
Féline Eman?
Oui, si, marinade, moi, ouais. Et puis je m'applique à choisir le vin. Je prends soit un vin, il n'y a pas besoin d'une AOC, on peut prendre un IGP, Pays d'Oc, si on veut un vin un peu gourmand, ou sinon un Gamay pour avoir un peu plus de nervosité.
Arthur Lequen, la parole est à la Défense. Alors marinade ou pas marinade?
Ça ne sert à rien. Ah. Ça ne sert à rien et c'est même totalement contre-productif parce que d'abord, dans le vin, il y a de l'alcool.
Oui.
Et que par osmose, l'alcool va absorber une partie du jus contenu dans la viande, donc ça va la sécher, la durcir. Et deuxièmement, ça va, avec le temps, ça va rendre la surface spongieuse qui va avoir du mal à dorer ensuite.
Ça, c'est vrai que quand on fait une marinade, ce qui est obligatoire de faire, c'est de bien éponger et bien égoutter la viande. Oui.
Ouais,
sinon, elle ne va pas colorer.
Voilà, par contre, alors déjà, c'est intéressant de savoir pourquoi on faisait mariner les viandes. C'est-à-dire que ça nous permettait de les conserver plus longtemps parce qu'elles étaient plus en contact avec l'air, donc elles s'oxydaient beaucoup moins vite. Ça modifiait la couleur de la surface des viandes et on voyait moins quand elles étaient avariées.
Non mais objection, votre honneur, quand même, c'est pas valable sur toutes les viandes. On est bien d'accord que la marinade, ça marche sur un poulet ou sur du poisson.
Ah oui, je suis
là,
d'accord.
Ça pénètre la chair.
Oui, alors ça marche sur le poulet, ça pénètre un peu plus, effectivement. Quand vous faites du poulet tandoori, c'est très visible. Simplement, ça pénètre à peu près d'un centimètre en 36 heures.
Oui, mais si vous faites une escalope de poulet comme un paillard de poulet, par exemple, qui va être très aplati comme une milanaise, là, ça va monter plus vite dans les fibres.
Oui, sauf que comme vous avez écrasé les fibres sont contractées, donc ça a plus de mal à pénétrer.
C'est terrible, la réponse à tout.
Non, mais le truc absolu, c'est de travailler avec des seringues. C'est d'incorporer la marinade à l'intérieur. Et ça, ça marche.
Voilà, alors
c'est sympa, je voudrais bien voir votre cuisson à la
main. Non, mais bien sûr, vous piquez et ouais, vous mettez
le vrai dedans. Truc pour le bourguignon, c'est de faire dorer la viande d'abord et ensuite vous faites mariner. Parce que quand vous avez fait dorer votre viande, vous avez créé des petites fissures entre chaque fibre qui sont chacune contractées. Et à ce moment-là, vous avez une surface qui est multipliée à peu près par 10 ou 100. Et là, votre marinade est plus efficace, même si elle rentre que d'un millimètre.
Ah, mais même si elle n'est pas rentrée, on garde quand même cette marinade après pour la cuisson. Et voilà, ah, c'est fait.
Oui, mais si vous faites dorer votre viande avant et vous la faites mariner après pendant 24 heures, là, vous avez un résultat qui est bien meilleur.
En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez conserver la marinade avant, c'est vrai, et Arthur Lequen vient de le dire, il faut bien éponger les morceaux pour qu'on puisse les faire rissoler. Sinon, on a une bouillie. Et là, c'est vrai que ça rate la cuisson.
Et autre idée qu'on bat en brèche, on ne brûle pas l'alcool du vin avant de le cuire.
Bah, c'est-à-dire que si vous faites mariner 24 heures, vous avez intérêt à enlever l'alcool. Alors, éviter d'assécher la viande.
On va passer au poulet rôti. Tiens, demain, c'est dimanche. Dans toutes les familles, on aime faire un poulet rôti. Alors, on pense souvent, et moi, le premier, je le dis régulièrement, je le teste. Alors, il va y avoir un débat, je pense, là-dessus. On dit souvent qu'il faut tourner le poulet chaque demi-heure dans un four pour avoir une cuisson homogène. C'est-à-dire que moi, je commence une demi-heure sur une cuisse, l'autre cuisse ensuite, et je termine la poitrine du poulet, je parle. Hein, et la poitrine du poulet bat dans le four sur la plaque de cuisson et les fesses en l'air, si je puis dire.
Alors ouais, je suis désolé, Laurent. Je suis désolé. Non, en fait, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de le mettre sur une cuisse.
Attendez, je vous dis pourquoi je fais ça. Parce que j'ai quand même une cuisson uniforme entre les cuisses et les blancs. Et les blancs restent moelleux quand je fais ça. Hein.
Ouais, mais en fait, quand vous posez sur une cuisse, ça marche dans une cocotte parce qu'il n'y a que la cuisse qui chauffe et qui cuit. Les blancs ne sont pas en contact avec le fond de la cocotte. Alors que quand vous êtes dans un four.
Je parle pas en cocotte, je parle au four, moi.
Oui, je sais bien. Ouais. Alors que quand vous êtes dans un four, la chaleur arrive par le dessus, vous avez la cuisse comme ça et le blanc qui est là, qui est juste parallèle à la cuisse, et la chaleur arrive par le blanc.
Mais il est un peu protégé quand même par les fesses du poulet en haut et les poitrines en bas quand même.
Mais non, parce que la poitrine, elle n'est pas sous la cuisse. Elle est à côté de la cuisse.
Elle est à côté, oui, ça, à côté. D'accord.
Donc en fait, le mettre sur une cuisse, ça marche à la cocotte, mais ça n'a pas d'intérêt au four.
Vous dites qu'en tout cas, ça marche quand on le fait en cocotte. Ça. Ouais. C'est une belle technique pour avoir un poulet moelleux. Moi, je le fais souvent en cocotte. Effectivement, on le démarre en coloration sur une cuisse, l'autre cuisse.
Et en four après.
Et on fait toutes les phases. Et au four, ou même au four, ou en petit mijotage sur une plaque de cuisson. Mais ouais. Très, très feu doux, quoi.
En fait, le vrai problème du poulet, c'est que les blancs sont cuits quand ils atteignent 65 degrés et que les cuisses à 75. Alors là, il y a un truc imparable, c'est-à-dire qu'il faut enlever la ficelle du poulet, qui est une hérésie, qui est un truc qui sert juste aux volaillers à ce que ça prenne moins de place dans leur frigo. Ça ne sert qu'à ça. Et en fait, il faut allonger les cuisses au maximum. Et quand vous allez allonger les cuisses, vous allez affiner le muscle des cuisses. Donc, vos cuisses vont cuire beaucoup plus vite et vous allez atteindre au même moment 75 degrés dans les cuisses et tout en gardant 65 sur les blancs.
C'est ce que vous appelez le yoga du poulet dans votre livre.
On peut appeler ça comme ça.
C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris comme vérité bonne à dire quand vous avez préparé ce livre?
Bah en fait, déjà la cuisson des pâtes, je trouve ça assez marrant parce que j'ai fait un vrai truc il y a quelques pages. En fait, c'est tout remettre en cause et voir si ce qu'on dit est intéressant. Les habitudes, voilà. En fait, on a des habitudes qui viennent du temps d'Escoffier et qui sont dépassées aujourd'hui.
Moi, je voudrais juste dire quand même qu'il y a l'importance du rituel aussi, l'importance du geste qui nous rassure. C'est-à-dire que même si on sait que ce qu'on fait ne sert à rien ou est faux, bah parfois ça nous rassure de le faire parce qu'on se sent bien, on a l'impression de s'inscrire dans une histoire, dans un mouvement, de reproduire. Et finalement, ça nous apaise. Et après, il y a tout un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'on a fait, c'est meilleur quand même. Peut-être aussi parce qu'on a chacun nos goûts.
Voilà, alors ça, c'est vraiment intéressant parce que dans le goût qu'on a des aliments, il y a aussi notre mémoire. Et qui fait, par exemple, le poulet de notre grand-mère était un super poulet, même s'il n'était pas très bien cuit, ça fait partie de notre histoire et on l'aime comme ça. Donc effectivement, on peut faire comme on veut, parce qu'on aimera ça. Oui, moi, je suis juste sur le, techniquement, comment faire mieux pour avoir de meilleurs résultats.
Voilà, c'est comme dans la vie, parfois on reproduit des erreurs, mais on aime bien le faire. Quoi,
en fait. On apprend
et
ses
on
erreurs.
Se sent bien avec
mais
nos erreurs.
Vous avez raison, il y a une question de goût. Moi, je vais vous dire un truc. Je ne suis pas un fan des pâtes al dente à l'italienne. Je trouve ça trop dur. Moi, j'aime les pâtes
c'est plus
un
digeste,
peu
hein.
plus cuites. C'est plus digeste, mais j'aime moins ça. Bon, après tout, c'est mon problème.
Et bon, on vous fera des pâtes collantes. Tiens, ça bah, vous
pas
apprend.
Pas trop non plus, n'exagérons pas.
En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire. C'est le dernier livre d'Arthur Lequen. Merci, Arthur.
Merci à vous.
D'être venu
Merci.
Nous en parler aux éditions Marabout.
Europe 1. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
C'est l'heure d'accueillir notre invité, auteur, réalisateur. Il est devenu populaire grâce au succès de deux séries de bandes dessinées vendues à des millions d'exemplaires. Les Cahiers d'Esther, bien sûr, et L'Arabe du futur. Il est aussi réalisateur du célèbre film Les Beaux Gosses qui a révélé Vincent Lacoste. Et il vient de publier Le jeune acteur 1. Une BD inspirée de la naissance de ce film et des débuts de Vincent Lacoste au cinéma. C'est Riyad Satouf, notre invité. Bonjour Riyad.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir à cette table. table.
Bah, j'ai trop content. En plus, j'ai une petite assiette là. Ça me... J'ai tellement faim voilà. Là déjà, rien qu'en la regardant.
Vous pouvez tester nos monts d'or. Hein. On peut parler la bouche pleine ici. Vous avez le droit, Riyad. Pour ceux qui ont raté le début, vous retrouverez cette belle séquence consacrée aux monts d'or en vous abonnant au podcast sur Europe1.fr. Alors, Riyad Sattou, vous venez nous voir avec Le Jeune Acteur 1, le sous-titre Les Aventures de Vincent Lacoste au cinéma. Donc, je le disais, la bande dessinée raconte ses débuts. Hein. Il avait 14 ans. Vous l'avez repéré avec un casting. Il a tout de suite accepté que vous utilisiez votre histoire commune pour faire cette bande dessinée. Comment ça s'est passé? C'est à quatre mains?
Oui, on a écrit ce livre à quatre mains. Alors l'idée, c'était avant de faire un livre sur lui ou sur son parcours ou sur le film Les Beaux Gosses, c'est de raconter comment, quand je l'ai choisi, c'était un ado de 14 ans, tout à fait classique et normal, qui n'avait jamais rêvé faire un film. Il n'avait jamais même eu la moindre ambition artistique, quelle qu'elle soit. Et je l'avais choisi parce qu'on avait fait un casting sauvage, parce que je voulais des acteurs qui aient des tronches. Je voulais pas...
Vous vouliez pas qu'il soit beau, vous avez... bah... C'est vous qui le dites, hein. C'est ce que vous dites dans la BD, hein. Donc je me permets de le dire.
Que, alors, je voulais que mes acteurs, mais c'était un film avec des adolescents, je voulais pas que ce soit des petits mannequins, vous savez, comme on voit souvent, oui. des jeunes un peu trop beaux qui aient, je sais pas, 19 ans et qui jouent le rôle de quelqu'un de...
C'était pas Hélène et les garçons, quoi.
Voilà, c'est exactement ça, je voulais faire l'inverse.
Belle référence.
Et donc je l'ai choisi pour ça, et il s'avère que... Il a été très très bon, j'ai adoré faire ce film avec lui, et qu'au fur et à mesure du temps, il est devenu de plus en plus connu, et qu'il s'est mis à jouer avec plein de réalisateurs célèbres. Il a fait une trentaine de films, et on s'est dit que c'était incroyable, ça aurait été marrant à raconter.
C'est un des acteurs les plus doués de sa génération. Il est actuellement d'ailleurs aussi dans Les Illusions Perdues de Giannoli, un film magnifique au cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller voir ce film. Hein. Dans cette bande dessinée, vous affichez votre admiration pour François Truffaut, hein, dès les premières pages, que vous avez découvert grâce au film Les 400 coups. Vous auriez aimé de faire... de Vincent Lacoste, votre Antoine Douanel, et de refaire comme ça plusieurs films avec lui?
Bah alors, quand j'ai commencé à faire mon premier film et que je voulais faire un film avec des ados, j'avais cette idée en tête de me trouver un jeune petit gars qui allait raconter un peu mon... Enfin, comme avait fait Truffaut avec Jean-Pierre Léaud, c'est-à-dire un personnage qu'on peut suivre sur plusieurs années, sur plusieurs films, qui est une sorte de double de fiction. Mais c'est vrai qu'on voilà, on peut pas reproduire les schémas de tout le monde. Et Vincent, c'est devenu un très bon ami à moi. Et en fait, je le suis maintenant à travers cette bande dessinée.
J'ai un challenge pour vous. 20-25 ans après, vous pourriez faire les vieux beaux, les mêmes que sont-ils devenus?
Les beaux gosses, oui.
Les beaux gosses, oui. Sont devenus, oui. Les vieux
beaux.
C'est drôle. Et comprenez l'histoire.
C'est vrai que c'est pas mal. Il faudra attendre plus de 20 ans quand même.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il faut attendre un peu plus longtemps, ouais. Encore. Ouais. Quel est votre goût de la semaine alors, Riyad Sattouf?
Alors, je crois que le truc que j'ai mangé cette semaine qui m'a le plus marqué, c'est dans un petit restaurant, c'est une vinaigrette qui était faite avec du miel macéré dans de l'ail. Et alors, j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai cherché la recette comme un fou et j'ai découvert cette recette sur Internet. Elle existe, je ne sais pas si vous la connaissiez. Prenez un petit pot, vous épluchez de l'ail frais, vous le mettez dans le pot. Ensuite, vous mettez du miel de châtaigne un peu clair, là,
oui, et
vous
laissez, costaud,
voilà,
de châtaigne,
très, très costaud, et vous laissez comme ça. Alors, ils disent 2 mois, et on l'ouvre une fois tous les 15 jours pour faire sortir le gaz. Et alors, le goût du miel...
Il y a un effet
de
fermentation qui se
passe. Voilà,
la
fermentation,
il va être confit, en fait. Ouais.
Et c'est tellement bon, mais c'est incroyable.
Et avec quoi vous l'avez mangé, alors, ce condiment?
J'avais mangé avec des légumes cuits, une espèce de potiron au four.
Oui.
C'est délicieux.
Ça marche bien.
Facile à faire.
Riyad Sattouf, dans ce livre, Le Jeune Acteur 1, vous dites que vous êtes très protecteur avec Vincent Lacoste. Vous faites attention à ce qu'il ne boive pas d'alcool. Vous n'êtes pas contre un petit verre de vin de temps en temps?
Un et plusieurs. Mais...
Il a plus 14 ans maintenant, voilà. Aujourd'hui.
Bah maintenant, je vais au restaurant avec Vincent et on boit du vin. Il est adulte, maintenant il a 27 ans.
Avec modération, avec plaisir. Et bien justement, c'est l'heure de la chronique de Ophélie Neyman qui est à côté de vous. Et elle va nous parler d'un vin. Un vin qui vient de loin et qui a une histoire très forte qui devrait vous toucher, Riyad, et vous qui nous écoutez aussi.
Oui, je voulais vous parler d'un combat, mais d'un combat qui se passe sans armes. Un combat de passion, un combat d'engagement. Quand on m'a dit que vous veniez, Riyad, j'ai tout de suite pensé aux 3 premiers tomes de l'Arabe du futur, hein, où vous racontez votre enfance en Syrie. Et ça a fait tilt parce que là-bas, en Syrie, on fait encore du vin. Du moins, il reste un domaine qui continue, malgré la guerre, à faire du vin.
Oui, parce que la Syrie, c'est vrai, était il y a bien longtemps une terre viticole. On peut même dire que c'est l'un des premiers pays à avoir fait du vin, Ophélie.
Oui, il y a 5-6 000 ans de ça, on faisait du vin en Turquie, en Égypte, au Liban, en Israël. Et la Syrie, bah, c'est au carrefour de ces pays. Et il y a eu aussi de la vigne. On sait que les Romains aimaient le vin du mont Bargellus. Et puis, bah, ça a disparu.
Et c'est une famille qui a décidé de recréer un domaine viticole là-bas, en Syrie.
Johnny Saadé et ses deux fils, Karim et Sandro Saadé. Johnny est syrien, il vient de l'attaquer. Il s'est installé au Liban avec sa famille. Et en 2004 et 2005, il crée deux vignobles coup sur coup. L'un au Liban, dans la vallée de la Beka, c'est le château Marcias. Et l'autre en Syrie, au nord-ouest, dans la vallée de l'Oronte, c'est le domaine de Bargellus, justement. Et sur place, il forme du personnel, une trentaine de personnes, des villages alentours, pour commencer à vinifier.
Et en 2011, la guerre éclate.
Oui, mais ils vont continuer à faire du vin. Il n'y aura pas une vendange qui sera oubliée, il n'y aura pas un millésime sans vin. 45 000 bouteilles par an, exportées aujourd'hui dans une trentaine de pays. Mais le plus fou, c'est qu'ils n'ont jamais pu y retourner, alors ils font tout à distance, par téléphone, par visio, par WhatsApp. Tous les moyens sont bons pour tenir bon et pour faire bon. Parce que figurez-vous qu'avant chaque vendange, les échantillons des raisins de chaque cépage, de chaque parcelle sont acheminés en taxi jusqu'à Beyrouth pour faire les analyses œnologiques.
Oui, parce qu'ils ne veulent pas faire simplement du vin, ils veulent faire du bon vin.
Oui, malgré le sort qui s'acharne. Leur bureau soufflé par l'explosion du port à Beyrouth l'an dernier, qui a grièvement blessé leur père, broyé à la jambe de Sandro. Ils ont continué depuis l'hôpital à piloter les vendanges et cette année encore. J'ai eu Karim Saadé au téléphone hier. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous continuez ? Et il m'a dit, bah, ce sont des pays où on peut faire des grands vins. Donc pour moi, comme pour les 30 familles qui en vivent en Syrie en ce moment, il faut produire de l'excellence, quelles que soient les crises, c'est gratifiant. Et puis, c'est notre thérapie, c'est notre façon de surmonter les chocs psychologiques de la vie. Et figurez-vous que ce vin, on peut le trouver en France, puisqu'il est exporté aussi. C'est le domaine Bargellus. Alors là, je vous ai servi un rouge. Il est à base de Cabernet Sauvignon, de Syrah et de Merlot.
Incroyable. Voilà,
vous êtes très attentif.
L'Oronte, c'était la... C'est la rivière qui passait dans mon village. Enfin, c'est une rivière syrienne. Donc, c'est incroyable de savoir qu'il y a du vin qui est fait. Je peux le goûter ?
Ah bah, bien sûr, bien sûr.
Incroyable, votre
12 histoire. Hectares de vignes en ce moment sont exploités.
Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas un vin gadget. C'est-à-dire que c'est un vrai bon vin. D'abord, évidemment, au Liban, on produit aujourd'hui de très bons vins.
Un petit côté bon Bordeaux qui a bien vieilli, même là déjà.
Il y a un côté bordelais, c'est parce qu'il y a du Cabernet Sauvignon. Ouais. Il y a cette Syrah qui amène un côté un peu méditerranéen. Oui. Et ce qu'on pourrait juste rajouter, si je peux me permettre, ma chère Ophélie, c'est que c'est aussi un conseiller français qui s'appelle Stéphane de Renoncourt qui suit les vinifications de ce domaine à distance, par visioconférence, parce qu'évidemment, plus personne ne peut aller sur place. Alors, c'est un extraordinaire ce qu'ils font.
Vous pouvez le commander, évidemment. Et là, c'est la bouteille qui nous a gentiment été apportée par le restaurant Spoon d'Alain Ducasse.
Alors
là, il est très gastronomique. Verdict, c'est vraiment un vin gastronomique.
Ah bah j'adore.
Hein,
alors là,
pour partir avec la bouteille. Voilà.
Et puis ça vieillit bien, puisque c'est 2014.
Blanc aussi. On peut vous la donner.
Et c'est un vin qui a 6 ans et qui a encore une fraîcheur, une précision de fruits vraiment
absolument
admirable.
Et vous retrouverez les références en vous abonnant à notre newsletter sur europe1.fr, la newsletter à table que vous retrouvez tous les dimanches dans votre boîte mail.
Le raisin, les champignons.
On va vous la servir à l'étale, comme chez nous.
Ben là, la saison de la raclette commence.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants.
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là ?
C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année.
Laurent Mariotte.
Ah, c'est culte. Eh ben oui, les bronzés font du
sang. On s'en lasse pas.
On s'en lasse pas, c'est le moment. Il y a de la neige qui est retombée un petit peu partout. C'est le moment de se remettre à regarder ce film. Soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Si vous avez raté le début, vous pouvez le retrouver en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. Nous revoilà avec notre invité Riyad Satouf, auteur, réalisateur. Il est venu nous voir avec un joli cadeau de Noël, Le jeune acteur 1, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. C'est paru au Livre du Futur. C'est votre propre maison d'édition d'ailleurs.
Oui.
Monsieur le directeur.
Mais non, mais c'est rigolo parce qu'on me demande souvent pourquoi vous... Et il y a beaucoup de, par exemple, de chefs dans les restaurants qui font leur propre potager. Et moi, pour moi, c'était un peu la même chose. Je me disais, mais pourquoi je ne cultiverais pas moi-même mes propres livres ?
Vous voulez tout suivre ?
Ben voilà.
Non, vous êtes sûr qu'on vous les refuse pas, quoi.
Non, mais c'est déjà une bonne raison, c'est vrai.
Et blague à part, je vous félicite sur la qualité du papier, l'impression est imprimée en France.
Ah oui, bien sûr.
Cocorico.
Oui, toujours. Ah oui, bien sûr. Vos impressions, Paulina. La Roche-sur-Yon, non, top.
Alors, cette bande dessinée raconte les débuts de Vincent Lacoste au cinéma. On le disait, un jeune ado de 14 ans qui fait ses premiers pas un peu malgré lui, comme ça, puisque c'est suite à un casting dans la cantine de son collège. C'était au collège Stéphane Mallarmé, collège dans lequel Julien Amat, qui travaille avec nous, a été à l'école. Donc voilà, ah oui. Julien, il aurait presque peut-être pu se retrouver dans Les Beaux Gosses aussi.
Alors, dans bon, il en est.
Il est trop beau, c'est ça.
Un peu beau.
C'est une histoire aussi qui concerne le quotidien de Vincent Lacoste. Cette bande dessinée, on le voit qu'il va retrouver ses grands-parents dans les Pyrénées, des grands-parents paysans qui tiennent à lui transmettre des valeurs paysannes.
Oui, bien sûr. Alors c'était aussi de raconter voilà comment comment la tradition et modernité peuvent se confronter. Quand il allait voir son papy, la première chose que faisait son papy, il l'emmenait dans le poulailler. Puis il lui disait, allez, tu prends le bateau et tu tues le poule. Alors il disait, mais non, je veux pas être. Tu tues le poule, je veux pas que tu sois un parisien craintif qui n'a pas peur. Alors il allait dans le truc et puis il tapait toutes ses forces sur le poulet. Il dit, allez, tape la poule, si tu la tapes pas, on n'a rien à manger. Allez, tape. Et alors il m'avait raconté ça de tout à. Il a tué des dindons, des poulets et tout. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est pas un parisien craintif comme on peut le.
Il a la double culture, mais c'est important. Mais Paris, province, bien sûr. Et il zigouille le poulet pour le poulet du dimanche. Il y a une scène, d'ailleurs, on le voit à la fin déguster le poulet avec ses grands-parents. On le voit, tiens, avec vos différentes bandes dessinées, Riyad Sattouf, vous êtes passionné par l'adolescence, l'âge où on se transforme en adulte. Mais dans cette bande dessinée, le jeune acteur, on voit un autre thème qui se dessine, c'est celui de la célébrité. C'est comment gérer la célébrité, parce qu'on le disait, Vincent Lacoste est devenu un des acteurs les plus populaires et les plus reconnus de sa génération aussi.
Bah oui, c'est vrai que alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas non plus méga célèbre. Les gens qui aiment le cinéma le reconnaissent. Il y a des gens qui le confondent souvent avec d'autres acteurs. Et donc raconter tout la splendeur et la misère un petit peu de la célébrité, c'est très très rigolo. Moi, ça m'est arrivé très souvent d'être avec lui dans la rue. Puis il y a quelqu'un qui vient qui fait, oh, excuse-moi, vas-y, viens, on fait un selfie là, Kev Adams, je t'aime bien et tout. Et je fais, non, je suis pas. Enfin, voilà, c'est toujours. Non, mais c'est rigolo. Où il y a, par exemple, alors ça, c'est quelque chose qui arrive chez les acteurs, mais. Dès qu'il joue dans un film, dans la vie, il devient un peu son personnage. Il avait joué dans un film qui s'appelait Première année, où il jouait un étudiant en médecine. Et récemment, on a fait une rencontre dans une librairie. Et là, il y a une jeune fille qui arrive comme ça, toute pleine d'émotions. Je vous adore, je vous trouve vraiment super. En plus, alors on lui dit, mais vous faites quoi dans la vie et tout. Elle dit, c'est très dur, je suis en première année de médecine. Enfin bon, vous savez ce que c'est. Hein. Comme s'il avait lui-même fait des vraies études. Enfin, c'est extrêmement marrant de voir ce que la célébrité fait sur le monde réel.
Et quel regard vous avez sur l'adolescence aujourd'hui? Parce que votre film, Les Beaux Gosses, qui trace l'adolescence de deux jeunes... Il y a une vingtaine d'années, je crois, le film est sorti. Ça n'a plus rien à voir avec ce que sont les ados d'aujourd'hui, quand même.
Bah, c'est vrai que chaque génération d'ados...
Bon, il y a deux, trois trucs qui sont restés.
Ouais, voilà, mais le propre, je crois, de chaque génération d'ados, enfin, qui était ce que je garde de la mienne, c'est qu'elle fait peur aux adultes de sa génération. On se dit toujours, ah là là, ça y est, le monde est fichu, là, avec les jeunes, ils sont trop débiles. Et à mon époque, ça a été déjà le cas. Quand il y avait Nirvana et les grunge et que tout le monde portait des grands pulls, tout le monde se disait qu'on allait à la fin du monde.
C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, oui. À chaque fois, on se dit ça. Riyad Sattouf, on parlait de la double culture de Vincent Lacoste, hein, Paris et la province, les racines paysannes. Vous aussi, vous avez une double culture. Une maman bretonne, un papa syrien. On en parlait avec Ophélie. Vous en parlez d'ailleurs dans l'Arabe du futur. Hein, c'est une autobiographie, votre bande dessinée. Qu'est-ce qu'on cuisinait chez vous à la maison? Alors, qu'est-ce qu'on mangeait? C'est de la cuisine fusion bretonne et syrienne?
Non. Alors, en Syrie, on mangeait pas grand-chose. Hein. C'était pas il y avait des plats de fête un peu quand les gens se mariaient, ou alors c'était des sortes de grands plats qui mélangeaient du riz et du boulgour. Alors en Syrie, ils appellent ça des bourrol. Et il y avait du mouton, bouilli dedans. Voilà, c'était le plat un peu de fête que tout le monde mangeait, se partageait. Et en Bretagne, ma mamie achetait des huîtres de temps en temps, des palourdes assez rarement parce que c'est très cher. Et on mangeait des galettes, sinon. Des galettes, oui, bien sûr, de sarrasin. Ça, c'est
vous aimez les coquillages, vous aimez le côté iodé. Ah, hein.
C'est ce que je préfère.
Eh bien, c'est l'heure du plat du jour.
Oh non.
On l'a fait pour vous, justement. Un plat iodé, comme en cuisine. Vous avez le pied marin. Et bien, on présente la chaudeur. C'est une soupe de coquillages réalisée par Thomas Graham du restaurant Le Mermoz à Paris, dans le 8e arrondissement, bas des Champs-Élysées. Si vous venez à la capitale, chers auditeurs, ça vaut le détour, comme on dit.
Magnifique.
On dirait une belle soupe comme ça, avec des moules à l'intérieur. Parlez-nous un petit peu de la cuisine de Thomas Graham. Tiens,
oui, Thomas Graham, il est jeune. Hein. Il a 28 ans, il est d'origine américaine. Il a fait la moitié de son parcours avec la chef Amélie Davas. Merci pour l'assiette. Et il est passé par le meilleur restaurant du monde, le Noma, excusez du peu.
Au Danemark, à Copenhague, oui.
Je ne suis pas d'accord que ce soit le meilleur du monde, mais
oui,
c'est
ça. Ça se discute, ça, oui. Enfin, il a été élu le meilleur du monde, vous avez raison.
Mais alors, un gros point commun avec Riyad Sattouf, c'est que lui aussi, il a l'air marin qui lui rappelle son enfance sur la côte californienne. Donc le chowder que vous avez devant vous, c'est une soupe de coquillages de sa maman.
Alors, il y a quoi? Parce qu'il y a une soupe avec une belle consistance qui
vire... C'est presque plus crème que soupe.
Vers le crémeux, c'est fait avec quoi alors, cette soupe?
On dirait un peu de la courge et une sorte de bisque, non?
Il y a une bisque, effectivement.
Il y a des moules.
Il y a des agrumes, non?
Il y a 20 centilitres de vin jaune pour déglacer les moules.
Du yuzu.
Il y a du yuzu, effectivement. Vous avez le palais creux, hein.
Ah bah, après la BD, moi, c'est la nourriture qui m'obsède le plus.
C'est monté à l'huile d'olive, voilà. C'est monté à l'huile d'olive pour le petit côté un peu parfumé. Et la texture, c'est délicieux.
Et
c'est,
les moules viennent de Utah Beach, sur la côte est du Cotentin. C'est des moules de Bouchot. Ça vient de Thomas Graham, au Mermoz, dans le 8e arrondissement. Ça vous fait plaisir de vous avoir à table, Riyad Satouf.
Hein, ah, j'adore, c'est trop bon. Hein.
C'est bon ça. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut refaire à la maison.
Mais on n'avait pas un petit vin blanc pour l'accompagner.
Si, je vous ai préparé un petit vin blanc du sud de la Bourgogne. Un Saint-Véran avec ce côté aussi un peu tranchant, une petite acidité, une petite note un peu iodée. Je vous sers ça tout de suite, vous allez voir, on va être pas mal du tout.
Et si vous voulez refaire une soupe qui s'apparente à celle-ci à la maison ce week-end, vous faites une soupe de maïs, une boîte de maïs que vous avez à la maison, vous la mixez avec quelques épices, des épices à curry par exemple, vous mixez tout ça avec un bouillon et vous mettez les moules que vous avez ouvertes de façon marinière comme ça à l'intérieur. Le maïs et la moule s'entendent également.
Et on garde le jus des moules évidemment.
Et vous retrouverez la recette sur europe1.fr et on garde le jus des moules, vous avez raison Olivier, parce que ça parfume.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire et bon app si vous êtes à table. Riyad Satouf est notre invité. Il est venu nous voir avec le jeune acteur 1. Les aventures de Vincent Lacoste au cinéma paru au livre du futur. Tiens, quelle est votre plus grande fierté, Riyad Satouf? C'est le succès de vos albums. Hein, on le disait, des millions d'albums vendus avec Les Cahiers d'Esther et L'Arabe du futur. Ou alors c'est de recevoir des messages de parents qui vous mettent des mots de remerciement, comme celui-ci, tiens, par exemple, que j'ai vu. « Merci, grâce à vous, mon enfant lit. »
Ah oui, non, vraiment, ça, sans coquetterie, c'est ce que je préfère quand des parents m'envoient des photos de leur grand ado un peu nigo sur le canapé, en train de lire mes BD, et en train de dire « C'est la première fois que je le vois lire une BD, c'est incroyable. » Et là, il commence même à m'arriver des choses un peu bizarres qui ne sont pas toujours terribles pour l'ego. Mais hier, j'étais dans une librairie. Là, il y a une jeune fille qui arrive, plus grande que moi, et très jolie, avec un masque comme ça, elle me dit « Ah, je vous adore, oh, mais moi je vous lis depuis que je suis toute petite. » Alors, moi j'ai l'impression qu'elle était plus âgée que moi, quoi. Donc c'est vrai que ça me fait des...
Oui.
Ça me fait...
Mais parce qu'une BD, c'est un vrai livre.
Ah oui, moi, oui, bien sûr, et puis surtout, le fait que moi je fais des BD pour les gens qui lisent pas de bande dessinée, c'est mon obsession, donc j'ai beaucoup de petites mamies, de petits papis qui viennent me voir, qui sont hyper contents de me dire qu'ils sont capables de lire une BD. Souvent, il y a plein de gens qui se disent « Bon, je veux pas savoir s'il faut lire le texte d'abord » ou regarder le dessin, et quand ils s'y mettent, ils n'arrivent plus à s'arrêter.
Ce que j'aime avec votre style, avec votre bande dessinée, ça me fait penser, alors je ne sais pas si ça vous êtes d'accord avec ça, mais à quelqu'un moi, que j'aime beaucoup, qui est Franck Margerin, qui est un auteur de bande dessinée, dans lequel il y a toujours plein de choses à lire. On peut les relire plusieurs fois, les BD de Margerin. Vous, c'est un peu pareil. On voit toujours des choses un petit peu dans l'arrière-plan ou des petites choses à côté desquelles on serait passé, en fait.
Oui, Margerin, c'est un grand génie. Moi, je me rappelle, j'avais été très marqué quand j'étais enfant par la lecture d'une de ses BD qui s'appelait Lulu Smack.
Ah oui.
C'était Lulu qui est Lucien qui avait enfin une petite amie et tout. Et alors il se passe quelque chose dans l'image, mais il y a toujours des petits détails autour, des petits trucs en plus. Et c'est vrai que ça me fait très plaisir.
C'est comme le grand Gottlieb
qu'on
peut relire un milliard de fois en découvrant toujours quelque chose.
Alors vous êtes très actif, hein, Riyad Satouf, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, comme un ado. c'est important pour vous?
Ah bah ouais, surtout qu'Instagram, en plus, j'imagine que vous c'est pareil, mais ça permet de suivre tellement de restaurants, de chefs,
c'est
de
vrai.
Voir de la nourriture toute la journée, que moi, je trouve que c'est le meilleur réseau social. Je reçois à la fois des photos et des messages de gens qui aiment mes livres et je vois à la fois des bons produits des quatre coins du monde.
Vous êtes abonné à combien de comptes de vignerons, Féline Eman?
Oh là là, je ne sais pas, 200, 300, 400.
C'est ça.
Hein. Mais pas tant que ça aussi, parce qu'effectivement, j'aime varier pareil.
Après, on se noie dans le flot, quoi.
Alors, c'est l'heure de continuer à parler vin, justement. Est-ce que vous y connaissez en bouchon et en tire-bouchon, Riyad Satouf?
Alors, pas très bien. Alors, j'avoue que ça fait partie de mon... Alors, j'adore boire, mais j'écoute généralement mes copains quand ils me disent « Attends, goûte ça, c'est super. » Mais j'ai pas la connaissance.
Ouais, c'est pas vous qui débouchez.
Non.
Ouais, bah avant de boire, il faut déboucher. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une mode qui est à avoir d'autres bouchages alternatifs hein, que ne sont les vieux bons bouchons traditionnels en Liège. Alors, Ophélie a fait tout à l'heure une chronique tellement remarquable sur le
Liège
des vins.
Quelle flagornerie.
Non, mais c'est vrai, j'allais faire autre chose. Non, mais c'était une très belle histoire.
Vous la retrouverez en podcast.
C'est une belle histoire.
Et moi, je vais vous proposer de jouer un peu, de faire un petit quiz ensemble sur l'histoire du bouchon et du tire-bouchon. Bah justement, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, quand d'après vous sont apparus les premiers bouchons en Liège? Alors, j'ai plusieurs possibilités. Le Moyen-Âge, l'Antiquité ou la Révolution?
Ah,
le premier bouchon en Liège.
Moi, je dirais l'Antiquité comme c'est Riyad.
Comme les Gaulois, là, avec les...
La cervoise.
Oui, puis ils prenaient les trucs dans les chaînes, là, non?
Oui. Tout le monde est d'accord ? Bah oui, c'est l'Antiquité, puisque le liège a des propriétés élastiques et hermétiques. Alors au départ, on s'en servait pour les jarres. Il n'y a pas de bouteille, évidemment. Et puis le liège a disparu pendant de nombreux siècles. On ne s'en est plus servi. Et c'est Dom Pérignon, au XVIIe siècle, qui va s'en servir pour boucher des bouteilles de champagne. Et puis, évidemment, à l'époque, on fermait les bouteilles, mais autrement, les tomates avec des chevilles en bois. Alors, autre question, à quelle période est apparu le tire-bouchon ? Puisque si on dit bouchon, bah, il y a tire-bouchon. Et donc, durant l'Antiquité, 12e ou 17e siècle ?
Je dirais 17e.
17e ?
Le plus tard possible.
Ouais, moi aussi,
il est incollable. Hein.
Il est incollable, ouais.
C'est bien au 17e siècle. Ouais. Avec l'arrivée des bouteilles en verre.
Tant qu'il n'y avait pas de bouteille, il n'y avait pas de bouchon à retirer.
Et donc le besoin de le sortir. Bien. Alors en fait, il est inspiré d'une vrille à tonneaux qui servait soit à faire des trous dans les tonneaux de manière à faire s'écouler le liquide. Hein. Et puis, la première mention de tire-bouchon date de 1681. Et là aussi, sur sa forme, on s'est basé sur un outil militaire qui s'appelle le tire-balle, qui servait à déboucher les canons d'une arme obstruée.
Ouais, je croyais que c'était pour retirer les balles dans les personnes. Hein.
Alors, qui a inventé le tire-bouchon ? Les Bordelais, les Indiens ou les Anglais ?
Ah, c'est un truc des Anglais, ça. Je les vois bien inventer un tir. Oui.
Oh, quoique, comme il y a les Indiens dans la liste, j'aurais tendance à...
Non, c'est les Anglais, parce qu'ils étaient à cette époque les plus gros importateurs de vin au monde, avec notamment les vins de Bordeaux et de Porto. Et donc, ils ont largement contribué à développer le vin en bouteille et donc le tire-bouchon. Alors, je vous l'ai dit, d'abord bouché avec une cheville en bois, puis ensuite par du liège. Ce sont les Anglais qui les ont inventés.
Il y a même un musée du tire-bouchon dans le Luberon.
Oh,
oui,
il y en a
exactement.
Plusieurs.
Il y en a plusieurs, mais dans le Luberon, au château de la Citadelle.
Ouais, à Ménerbe.
Exactement. Une magnifique collection. Combien de brevets
par
aujourd'hui
le producteur
concerne...
des bronzés. Hein, il a été construit par celui qui a produit Emmanuel et les bronzés.
La famille Rousserrois.
Exactement.
Ouais, des producteurs de vin. Ouais. Combien de brevets aujourd'hui concernent le tire-bouchon ? 12, 300 ou 60 ?
Combien de brevets ?
Des brevets ont été déposés.
Il y a 300, parce qu'à chaque fois qu'on va dans un magasin, il y a des tire-bouchons dans tous les sens.
Plus de 300. Le premier date de 1795 et on le doit à un certain Samuel Henshaw. Il était associé à un industriel qui a inventé donc cet outil efficace, doté d'un petit disque en métal entre la vrille et le manche pour éviter de se faire mal. Et en 1802 a été inventé le premier tire-bouchon à cloche qui permet de sortir le bouchon tout seul. On a le temps pour une petite dernière
pour la route.
Allez, le limonadier en quelle année ? 1804, 1845 ou 1882 ?
1882.
Exact. Bravo, Yann Satouf.
Il est
baptisé
l'ami du serveur ou l'ami du majordome et il prend le nom de limonadier en France. Voilà.
Eh ben merci Olivier.
Moi je veux juste dire, je pardonne beaucoup de choses aux gens. Franchement, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je leur pardonne tout, mais avoir un mauvais tire-bouchon chez soi, c'est vraiment.
Alors c'est quoi un bon tire-bouchon ?
Mais c'est un tire-bouchon qui casse pas le bouchon.
C'est un tire-bouchon avec une lame longue et relativement affûtée.
Oui.
Et alors après,
il faut que la vis soit fine pour pas déchirer le bouchon et il faut surtout que quand on tire le levier, ça puisse sortir à la verticale et non pas se tordre vers soi.
Et puis il y a des tire-bouchons bilames aussi qui sont très efficaces.
Et alors on fera une chronique, on fera un bande dessinée spéciale tire-bouchon. Comment
exactement
choisir son tire-bouchon ? Je voudrais qu'on reparle de votre bande dessinée Riyad Satouf, le jeune acteur 1, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. On vous connaît pour les cahiers d'Esther aussi. Est-ce qu'ils se connaissent, tiens, Vincent Lacoste et la vraie Esther dans la vie ?
Tout à fait, ouais. Ils se connaissent tout à fait. Oui, c'est une... Donc ces deux, alors Esther, je la garde anonyme.
C'est ça, elle est secrète.
Donc elle est totalement secrète. Et Vincent, comme c'est un acteur et qui passe sa vie devant les sunlight, lui, je l'ai mis en avant et je raconte sa vie au grand jour. Mais ils se connaissent, oui.
Alors, le jeune acteur 1, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma, c'est paru aux éditions Les Livres du Futur. Riyad Satouf, ça y est, ça va chauffer. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, Riyad Satouf ?
Alors, je dirais que c'est des petites briques de jus de raisin extrêmement chimiques qu'on buvait quand j'habitais avec mes parents à Libye.
Ah.
Et alors, de temps en temps, je retombe sur des mauvais jus de raisin et ça me rappelle ce goût-là
ça
et j'aime bien,
goût.
En fait. Enfin, c'est un peu comme les bonbons. Vous voyez.
Le premier plat que vous avez cuisiné ?
C'était bien sûr une galette complète quand j'étais tout seul dans mon petit appartement à 18 ans.
En Bretagne.
Oui, bien sûr.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer.
Alors, c'est prévu pour dimanche et je vais essayer la lamproie à la bordelaise.
Ah oui.
C'est un animal préhistorique. C'est plus proche du ver.
On continue à en pêcher un peu dans l'estuaire de la Gironde là-bas et c'est fait avec de la sauce au vin rouge. C'est un peu spécial.
Voilà.
Bonne chance.
Je vais me fâcher tous les bordelais. À chaque fois, je leur dis c'est moyen. Ils me disent, attends, il faut la faire vieillir, la lamproie à la bordelaise. C'est un truc qui se garde des années.
Dans des
ça confie, oui.
Votre plus beau repas, tiens, Riyad Satouf. Youssouf?
Alors, j'ai été longtemps en atelier avec un dessinateur de BD qui s'appelle Christophe Blin. Il avait fait une bande dessinée avec Alain Passard.
Ah oui, très belle bande
dessinée. Et un jour, il nous a invités chez Alain Passard. J'étais très jeune. Donc, Alain Passard, qui est un chef triplement étoilé, spécialiste des légumes. Et c'est le plus grand repas que j'ai mangé de ma vie. Déjà parce que c'était désarmant de simplicité apparente. C'est-à-dire des légumes exceptionnels, des tomates, quand il vous en met une, vous avez l'impression de manger la déesse des tomates. Et en fait, ce repas a complètement changé ma façon de voir la nourriture. Et j'ai changé de la façon dont je mangeais, j'ai mangé après. J'achète des très bonnes patates, par exemple, mais je mange que ça, mais que des ultra bonnes patates, avec un petit peu de sel ou un truc comme ça.
L'importance du végétal du produit de saison dans la cuisine d'Alain Passard. Votre pire repas?
Ça, c'est les sandwichs ignobles qu'il y a dans le TGV. Dans le train.
Oui, même si ça progresse un petit peu, mais c'est vrai qu'on les trouve
pas
toujours.
Pas trop non plus.
Non, mais j'essaie de dire ça parce que c'est vrai qu'il y a des tentatives parfois, et parfois on a quand même des bonnes surprises, ou des moins pires, si je puis dire. Le plat emporté sur une île déserte.
Ah ouais, ça c'est compliqué. Je dirais un. Non, peut-être le petit bocal de miel à l'ail, là. Je sais pas, parce que comme on peut pas survivre trop longtemps sur une île déserte, autant mourir lentement avec ce bon petit goût sucré et aillé. Là.
Oui, puis en condiment avec les poissons que vous allez pêcher, ce sera pas mal, ça.
Ça, c'est une bonne idée. Moi, je me voyais déjà mourir sur la plage. Non.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Bon, Hergé, François Truffaut,
oui.
Catherine Bigelow, parce que je l'adore. Vous savez, c'est celle qui a fait Zero Dark Thirty, le film américain. Et Catherine Deneuve, parce qu'un jour, j'avais mangé au restaurant à côté d'elle. Bon, elle ne me connaissait pas. J'avais adoré la façon dont elle parlait de ce qu'elle mangeait. Je me dis, ça va être sympa d'avoir comme copine Catherine Deneuve et de rester avec elle.
Une bonne vivante, Catherine Deneuve, oui. Et votre adresse secrète?
Mon adresse secrète, alors, à Paris, je vous conseillerais, si vous êtes à Paris, un petit lieu qui s'appelle Pleine Mer et qui vend des huîtres en arrivage spécial de Cancale. Ils ont des huîtres sauvages aussi. Et c'est les meilleures huîtres que j'ai trouvées à Paris. Et c'est pas pris d'assaut. Enfin, je vous conseille de prendre d'assaut, c'est génial.
Et Riyad Satouf, le mot de la fin, F-A-I-M.
Je dirais que, alors, écrire. Selon moi, faire une bande dessinée, écrire une histoire, c'est un peu comme cuisiner un plat. Parce qu'on peut faire une histoire très épicée, très sucrée ou très salée, et c'est une question d'équilibre. Moi, j'aime bien les histoires assez simples. C'est pour ça que j'aime bien les bons petits produits sans trop d'esbrouffe.
L'alchimie des mots et des mets. Merci d'être venu, Riyad Satouf. Le jeune acteur 1 aux éditions Les Livres du Futur. Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef, Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction, Marion Sauveur et Julien Amat à la rédaction.
Le beau gosse,
voilà, du même collège que Vincent Lacoste. Loïc Vimard à la réalisation. Merci Ophélie Neyman.
Merci.
À demain dans Le Monde. Salut Olivier Pouls.
Bon week-end mes amis.
À bientôt sur Europe 1, du lundi au vendredi avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bon week-end sur Europe 1.